Du 21 au 28 août, c'est les 37e rencontres cinéma de Jindou.
Joli village de Jindou. Et alors avec votre accent, ça fait Jindou. Je me disais, mon Dieu, ils ont des gens qui sont doux, c'est bien ça.
En salle ou sous les étoiles, d'archives en avant-première, de cours en long métrage, on vagabonde d'idées en réalité, tout en faisant le tour du monde en images avec des films présentés par ceux qui les font, et ainsi rencontrer ces raconteurs d'histoires lors des tchatches quotidiennes.
C'est des films qui peuvent se lire à plusieurs niveaux.
Quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, une image est une idée. Hein. Mm-hmm. C'est plusieurs idées même, c'est une série de signes, donc ça parle du monde. En fait, c'est faire du cinéma, c'est participer du travail intellectuel collectif de l'humanité, je veux dire, bien entendu. Donc c'est vrai que le cinéma est une des manières.
Durant le festival, Antenne Doc vous livre le programme en détail le matin à 9h. Et à 19h, retrouvez les réalisateurs, publics et autres personnes présentes sur les rencontres cinéma.
Je dis toujours que toute sa vie, on devrait rester nomade de l'interrogation plutôt que sédentaire de la certitude.
Je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire même à un niveau individuel, tous les jours, se reposer la question tous les matins quand on se réveille, de se demander qu'est-ce que c'est que notre action sur le réel dans lequel on est, comment on se positionne, qu'est-ce qu'on fait.
Sur place, de quoi se restaurer, lire avec la librairie de Saran, des apéros-concerts et plein d'autres choses encore à découvrir durant les 37e rencontres cinéma de Jindou du 21 au 28 août. Pour retrouver toutes les infos sur les rencontres cinéma de Jindou, direction la toile internet à l'adresse jindou.org.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux rencontres cinématographiques de Jindou. Alors, à côté de moi, donc, se trouve Lina Souelem, qui est la réalisatrice de Leur Algérie, qui est le film que vous allez voir maintenant. Je vais lui laisser vous en dire deux mots.
Bonjour, moi je ne vais pas trop parler parce que j'ai le cœur qui bat tout à l'heure. Enfin, j'ai déjà eu quelques projections, mais en ce moment, à chaque fois qu'il y en a une, j'ai l'impression que ça sera peut-être la dernière et je suis super émue d'être là. Et surtout, je suis ravie d'être à Jindou parce que c'est un festival très beau que je découvre pour mon premier film. Je ne vais pas parler du film, mais juste voilà, c'est un film que j'ai commencé à filmer en 2017, que j'ai fini en février 2020, et en mars on a eu le Covid. Donc voilà, pour moi, ça a été, enfin, le destin du film a été marqué par la pandémie, malheureusement, mais j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir le projeter à l'étranger et en France. Là, ça recommence, donc je suis vraiment très émue d'être là. Et je suis très bavarde, donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête après le film. Et je vous remercie et je vous souhaite une bonne projection.
C'est fou après 62 ans de mariage qu'ils se séparent.
Eh ben, ils sont pas loin, c'est mieux.
C'est en face de chez Mémé, alors?
Il y a à peu près 30 mètres de différence.
Pépé, tu l'aimes? T'étais amoureuse de lui?
Eh ben, ou de B peut-être.
Vous êtes rencontrés?
Non.
Quoi, direct?
Oui.
Ils vous ont mis dans une pièce?
Voilà. Comme tu vois dans les films, des fois. On est au bord du ravin, tous les deux. Lui, il est un peu plus près. Moi, je suis à côté.
Regarde voir ici, là.
Le chien.
Comment il s'appelle le chien, là?
Le chien Bill.
Et parlez un peu à Bill entre vous, là. C'est la honte.
Est-ce que tu regrettes d'être venu en France?
Avant, oui, au commencement, oui. On est parti, celui qui part, il revient pas. Celui qui part en France, il retourne pas.
J'ai toujours pensé que c'était en Algérie, ces images. J'ai rêvé qu'on y était allé.
Ouais, on dirait, mais on est à Thiers.
Pourquoi vous avez jamais emmené vos enfants en Algérie, vous?
Ben, quand on est Algérien, on est Algérien. Il n'y a pas besoin d'aller en Algérie.
J'aurais voulu leur transmettre la culture algérienne, quoi, la politesse, enfin tout, quoi. Et ben, j'ai pas réussi.
Ben, on est bien élevé, je trouve. Tu racontes n'importe quoi. Dès que tu dis pas de choses sérieuses, elle rigole.
تشرب شويه ماء برد. ستريفي ان بو.
هذا ثاني ما.
قعد شنو لك.
Nous sommes en compagnie de Lina Soualem. Bonjour Lina.
Bonjour.
On a vu ton film tout à l'heure, L'heure Algérie, en compagnie de Loïc. Hein.
Oui. Eh bien moi, pour la première question, je voudrais que tu présentes un peu le film.
Alors voilà, c'est mon premier film documentaire, qui est un long métrage de 72 minutes. J'avais rien réalisé avant, donc c'est vraiment ma première réalisation cinématographique. Et en fait, le film est parti de la séparation de mes grands-parents, qui se séparent après 62 ans de mariage. Aïcha et Mabrouk Soualem, donc ils sont un couple d'immigrés algériens qui sont arrivés en France dans les années 50. Et au moment de leur séparation, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de silence autour de leur histoire, que je savais très peu de choses sur leur expérience d'exil en France, et que surtout cette séparation était très soudaine. Et je me rendais compte que voilà, je savais pas ce qui s'était passé entre eux, ni dans l'intime, ni dans leur histoire collective. Et j'avais besoin à ce moment-là de les filmer pour ne pas perdre leur mémoire avant qu'ils... Enfin, pour récupérer cette mémoire et cette transmission avant qu'ils disparaissent.
Et cette mémoire et cette transmission, est-ce que tu avais posé des questions avant l'envie de faire du film et des questions qui étaient restées sans réponse?
Alors justement, ces questions existent depuis longtemps, mais je n'avais jamais osé les poser. Donc je pense que le film a été l'outil pour oser les poser. Parce que ça faisait plusieurs années que je disais à ma grand-mère que je viendrais la filmer un jour, mais je ne posais aucune question à ce moment-là, de peur de ce silence. Et je pense que j'avais besoin de cette caméra comme presque protection et quelque chose pour enclencher la parole, pour oser poser toutes ces questions.
Après, c'est vrai qu'on se rend compte que les grands-parents, ils communiquent beaucoup plus avec leurs petits-enfants qu'ils communiquent avec leurs enfants, leurs propres enfants. Tu l'as vraiment ressenti, ça se ressent beaucoup avec ton père dans ton film.
Il y a beaucoup plus de distance dans les relations. Il y a moins d'enjeux d'éducation, d'avoir réussi à élever ses enfants comme on voulait, à leur transmettre ce qu'on voulait. Et je pense qu'il y a un amour aussi des grands-parents vers les petits-enfants qui est différent des enfants. Et je pense surtout que moi, j'ai eu la... comme je suis née en France, que je suis née aussi dans un contexte social plus aisé que mes grands-parents et mon père, qui viennent vraiment de milieux... très pauvre ouvrier, modeste, et moi, grâce à mes parents qui ont réussi en tant que comédien, j'ai pas grandi de la même façon. Donc j'ai une éducation différente, j'ai fait des études, et donc je viens avec un œil un peu plus extérieur et avec plus de distance. Et je pense que voilà, ça fait que le rapport est plus, presque plus simple que pour mon père, pour qui ça renvoie directement à son vécu, alors que moi, c'est le vécu de ma famille, donc c'est différent.
Ils ont réussi à répondre à ce besoin de cette recherche d'identité? Est-ce qu'ils ont réussi à te répondre à ça ou tu as réussi à y répondre par toi-même?
Je pense que je n'ai pas posé directement la question de l'identité. À chaque fois, c'était plus essayer de comprendre comment ils se définissaient, qu'est-ce qu'ils se sentaient à quel moment, comme je demande à mon père. Mais en fait, toi, tu te considérais algérien ou français. Ma grand-mère, qui est née sous l'Algérie française en tant que, comme on les appelait, française musulmane ou indigène, donc sujette de la France. Je lui demandais, donc, est-ce que toi, tu avais l'impression d'appartenir à la France ou pas? Et en fait, avec toutes ces questions, j'ai compris que pour eux, c'était plus simple que pour moi, presque. C'était une identité incorporée dans la culture, presque dans les gènes, quoi. Et moi, le fait d'être née ailleurs, c'était plus difficile de me positionner par rapport à tout ça. Et ce que j'ai pu comprendre, et c'est aussi, je posais ces questions-là, pour moi, c'est une manière de faire face et d'aller à l'encontre de ce que les gens font en général, qui est de nous demander de choisir, ce qui pour moi est complètement impossible parce qu'on est fait de multiples identités et on ne peut pas choisir ni mettre une identité de côté pour faire plaisir à un idéal républicain qui veut effacer les identités multiples pour faire semblant qu'on est tous égaux, alors que justement notre richesse et notre différence est notre richesse. Et en fait, pour moi, c'est à travers toute cette complexité de comment eux se définissent, moi j'ai accepté la complexité de mon identité et j'ai plus besoin de dire mais en fait je suis plus ça que ça, plus ça que ça, en fait je suis une imbrication de tout, ce que j'avais vachement de mal à dire avant. J'arrivais pas à me situer, je me sentais pas légitime à dire je suis ça ou ça, je me sentais pas légitime à dire je suis complètement française ou je suis complètement je suis française d'origine, je suis ci, ma mère est palestinienne, enfin maintenant je suis toutes ces choses là en même temps et je me sens plus honteuse ou illégitime à l'exprimer.
C'est une quête aussi qui t'a amené jusqu'en Algérie. Comment ta famille a vécu ce lien que tu as créé? Tu as créé un pont, du coup, dans cette histoire, à travers cette recherche familiale?
Je pense que pour mon grand-père, ça a été plus fort que pour ma grand-mère. Parce que bon, elle me connaît en plus, donc on a déjà un rapport. Elle a déjà cette fierté de sa petite fille. Pour mon grand-père, c'était presque un exploit que j'aille jusqu'à là-bas, parce que pour lui, c'est devenu un lieu tellement inaccessible, mais pas physiquement, plus mentalement. Le fait d'avoir quitté en tant qu'exilé, c'est très difficile de retourner dans son pays. Puis il a essayé de s'y réinstaller en 62 à l'indépendance. Il n'a pas réussi. Puis une fois qu'il a fait sa vie sociale en France, et puis toute la question des retraites, voilà, toute cette question des Chibani, ces immigrés qui, une fois qu'ils ont travaillé en France, perdent leur retraite s'ils retournent dans leur pays. Donc il y a aussi cette question sociale qui est très forte. Et en fait, pour lui, le fait que moi j'aille jusqu'à là-bas, dans cet endroit reculé, perdu, pour lui, c'était un endroit où il n'y avait presque plus personne, plus de maison. C'était un énorme exploit. Et d'ailleurs, il dit un mot qu'on utilise en arabe qui est fahla, qui en fait qui vient presque de la paysannerie, c'est-à-dire la force des paysans, qui veut dire un peu débrouillarde. Donc c'est comme ça qu'il m'a décrit après ça, comme si j'avais je sais pas, monté l'Everest, quoi. Et ça, c'était très beau, parce que j'ai eu l'impression de, en fait, tout le film, je lui demande de me transmettre des choses, et à ce moment-là je me suis dit, ah, bah, peut-être que moi aussi j'ai pu lui transmettre quelque chose à ce moment-là, et c'est pas que moi qui prends de lui, mais j'espère lui avoir donné quelque chose aussi.
Dans ce film, tu as réussi à enlever certains tabous sur l'amour, sur plein de choses. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance où ma grand-mère, même encore maintenant, me cache les yeux quand il y a une scène de sexe à la télé, tu vois. Et du coup, tu as réussi à le faire avec ta grand-mère. Comment elle l'a vécu, elle? Avec beaucoup de rire, j'ai vu. Et toi, tu l'as ressenti comment?
Bah, pour moi, c'était très, très dur d'aborder cette intimité-là. Pareil, hein, quand il y a des films à la télé, moi, il faut que je zappe tout de suite, sinon c'est le scandale. Et puis même, j'ai honte, et puis elle est vraiment mal. Mais justement, finalement, je me rends compte aujourd'hui que ce qu'elle dit, pour les gens, ce qu'elle dit dans le film, c'est pas énorme. Mais pour moi, je sais à quel point c'est énorme ce qu'elle raconte là. Surtout, j'ai compris que je pouvais pas aller au-delà et que c'était vraiment la limite. Et j'ai compris qu'elle-même, les choses trop intimes, elle s'interdisait de les formuler. Que même elle dit elle-même, je l'ai effacée de ma mémoire. Des choses trop intimes, trop douloureuses. Et du coup, ce moment-là était pour moi très fort, parce que j'avais l'impression d'avoir atteint un territoire interdit. Et à la fois, elle m'a permis de le faire, puisqu'elle m'a quand même répondu. Elle restait quand même là, elle n'a pas dit stop, elle n'a pas dit éteins la caméra. Et du coup, c'était un moment de partage très fort, puisque je me suis rendu compte quand même de quelque chose qui a déterminé sa vie de femme. Et à partir du moment où j'ai compris ça, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, c'est-à-dire je ne voulais pas entrer dans les détails. J'ai compris ce qu'elle avait vécu à ce moment-là, et j'ai l'âge pour comprendre ce que ça peut signifier. Et voilà, c'était très fort, mais quand j'ai filmé cette scène où elle parle de la première fois qu'elle rencontre mon grand-père, je pensais que j'allais pas la mettre dans le film. Hein. Pour moi, c'était trop intime. Et finalement, au montage avec la monteuse, quand on l'a regardé ensemble, bah, au début, je dis non, mais ça, tu jettes tout de suite. Je dis mais non, c'est une scène très forte, très belle, très importante. Elle raconte beaucoup de choses. Et j'ai fini par comprendre et accepter. Et maintenant, c'est une de mes scènes préférées. Ouais.
Tu parles d'intimité dans le film, il y en a beaucoup. Je trouve que, moi, en sortant de la salle, j'ai trouvé que tu as eu beaucoup de courage de pouvoir montrer ça, puisqu'on va quand même très très loin dans ton film. On te voit même toute petite, d'ailleurs. Et on voit aussi beaucoup l'intimité de ton grand-père, qui dans son absence de dialogue, laisse apparaître beaucoup de rancœur et de souffrance. Et comment tu as réussi, toi, à essayer de lui faire sortir trois mots, quoi?
En fait, je pense que au-delà du courage, c'est un film que j'ai vraiment fait dans l'urgence, avec un sentiment de vital, en fait. Pour moi, c'était nécessaire à ce moment-là de le faire et d'avoir, c'est même pas des réponses, mais d'ouvrir ce dialogue-là et de récupérer une partie de cette mémoire pour reboucher des trous et pouvoir avancer. C'était une étape de ma vie où, en fait, si je m'attelais pas à comprendre cette histoire et à les comprendre et comprendre ce que eux ont vécu, je pouvais plus avancer. Et en fait, c'est en ça que les fois où j'ai été très insistante, où j'ai pas lâché pendant 3 ans, c'est parce qu'en fait, je pouvais pas faire autrement. Et je pense que c'est aussi peut-être la force d'un premier film, où en fait, c'est une énergie nouvelle, où j'apprenais tout sur le terrain aussi, parce que j'en avais jamais fait avant. Donc j'avais l'énergie de sacrifier plein de choses à côté pour me concentrer sur ça. Parce que c'est aussi 3 ans où j'ai pas pu travailler, pas vraiment, où j'ai sacrifié des jobs pour pouvoir faire ce film. Et puis surtout, de filmer des personnes âgées, c'est compliqué, parce que du coup, j'ai vécu 3 ans avec la hantise de les perdre. Je l'ai toujours, mais en fait, la hantise de les perdre pendant que j'étais encore en train de faire ce processus. Et d'ailleurs, mon grand-père est mort au moment de la post-prod, donc c'est vraiment une peur qui m'a animée jusqu'à la fin. Et le grand-père, voilà, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de le filmer où il répondait pas. Donc, je retournais, puis j'acceptais petit à petit en disant, bah, il répond pas, mais au moins il est là, je filme ses gestes, je filme sa présence, les autres parlent de lui. Puis je reposais tout le temps les mêmes questions. Puis parfois il disait un mot de plus, et parfois un mot de plus. Et je me souviens une fois, il m'avait dit un truc de fou, et en fait j'avais pas appuyé sur enregistrer. Donc en 3 semaines, j'étais en train de m'arracher les cheveux. Et en plus, à chaque fois que je retournais, il me disait jamais la même chose. Mais finalement, voilà, à force de revenir, de lui expliquer à chaque fois que voilà, c'était un projet important, que c'était mon travail, que c'était un film important, qu'en fait, je voulais en savoir plus. Je ne sais pas s'il entendait ce que je lui disais forcément, mais petit à petit, voilà, en l'emmenant sur certains lieux, en lui montrant des photos, en revenant régulièrement, il m'a donné accès à des choses, quoi.
Alors après, peut-être aussi cette manière que tu as eu de travailler toute seule dans la captation d'images, captation de paroles. Hein, je vois que tu étais toute seule dans le scénario, images pour filmer. Peut-être que c'était plus facile du coup de te faire livrer cette parole parce que c'était quand même une relation d'intime à intime en fait, que tu as instaurée.
Oui, c'était nécessaire. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai ressenti depuis le départ. Je ne me suis jamais posé la question de est-ce que je ramène quelqu'un ou pas. D'ailleurs, j'ai eu un chef opérateur 2 jours seulement sur le film pour faire les extérieurs, tout ce que je pouvais faire. Et finalement, il a quand même filmé une scène avec moi où mes grands-parents sont sur le banc à côté. Parce qu'on est quand même dehors et pas à la maison. Et c'est vraiment à la fin du processus, quoi. Pour moi, c'était des images additionnelles. Mais toute l'essence du film, c'est vraiment entre eux et moi. C'est-à-dire que voilà, je suis toujours dans des espaces très intimes, à traiter de choses très intimes. Et surtout, il fallait qu'il me parle à moi et pas à une équipe, quoi. Et je pense qu'il n'y avait que comme ça que je pouvais avoir cette parole-là.
Je me pose une question aussi sur ta grand-mère. J'imagine qu'elle a dû voir le film. Comment elle a réagi en voyant son histoire racontée, cette manière, le portrait que tu as fait d'elle?
En fait, c'était très fort quand elle a vu le film parce qu'elle a été vraiment elle-même, comme dans le film. Donc ça m'a confortée aussi dans l'idée que j'avais réussi à capter son authenticité.
Elle a rigolé?
Elle faisait exactement pareil que dans le film. C'est-à-dire, quand elle rit dans le film, elle riait. Elle me disait les mêmes commentaires à chaque fois. Elle pleurait, elle riait en même temps, dans le même moment. Donc, c'était très fort. Et puis, elle était très fière, en fait. Voilà, on n'exprime pas les choses avec des mots. Elle me dit, je suis fière de toi, ma petite fille qui a filmé ses grands-parents, ma petite fille qui traîne de l'Algérie, qui parle de sa grand-mère, qui est arrivée. Donc en fait, c'est en parlant d'elle qu'elle est... Mais le fait d'avoir raconté cette histoire, oui, pour elle, c'est une fierté, quoi.
Alors c'est vrai que le film s'appelle « Leur Algérie ». On aurait pu l'appeler « Leur France » aussi, ouais. Puisque c'est un peu exactement la même chose. Ça traite quasiment, c'est un peu leur vie. C'est 50-50, ouais. Le pays et le pays où ils ont vécu, ouais. Et où ils vivent. Et ça, tu l'as ressenti beaucoup aussi?
En fait, si le film s'appelle « Leur Algérie », c'est parce que moi, je partais d'un silence autour de l'histoire, de leur lien à l'Algérie et de l'histoire, leur histoire avec l'Algérie. C'est surtout parce que moi, je cherchais l'Algérie en eux. C'est-à-dire que je la voyais partout dans les références de vie. Parce que finalement, évidemment, ils ont passé plus de temps de leur vie en France qu'en Algérie. Mais toujours avec une culture algérienne très présente. Et puis surtout que la vie d'un tiers-noir français et d'un tiers-noir algérien n'est pas forcément la même. Bien sûr, ils se retrouvent dans de la sociabilité, mais c'est vrai que c'est 2 vies différentes et qui se côtoient. Et pour moi, c'est important de raconter cette vie-là aussi qui existe et surtout d'essayer de retrouver l'Algérie en eux. Qu'est-ce qui reste de cette Algérie qui n'est en plus pas l'Algérie contemporaine, mais celle qu'ils ont quittée, qui est une Algérie qui disparaît dans les mémoires avec les générations qui nous quittent. Et surtout, qu'est-ce qu'ils nous ont transmis de cette Algérie? Parce que, en fait, tu nais en France avec dans ta famille une histoire et une langue qu'on ne te raconte pas officiellement à l'école, et ça crée des malaises. Donc, c'était très important pour moi de pouvoir réassocier l'histoire française, l'histoire algérienne, qui, en fait, il y a beaucoup de liens entre les deux pays. Et on fait comme si les immigrés d'aujourd'hui. C'était une chose et l'histoire de la guerre d'Algérie, c'était une autre. Et tout est lié, en fait. Et on ne peut pas traiter de ces questions-là sans revenir à tout ce qui s'est passé depuis la colonisation.
Puis aussi, je voulais parler de la force de ta grand-mère. Après 60 ans de vie commune, elle a réussi à prendre son indépendance. Et ça, c'est comment elle y est arrivée? Sur un coup de tête? J'ai pas très bien compris dans le film.
Ouais. En fait, c'est ce que je racontais un petit peu au débat, c'est qu'on me pose souvent la question de pourquoi ils se sont séparés à ce moment-là. J'ai pas de réponse, parce que c'est une accumulation de choses qui font qu'elle est partie à ce moment-là. Elle aurait pu partir il y a 20 ans, elle aurait pu partir il y a 40 ans. Si c'était marié, qu'ils avaient vécu en Algérie, peut-être qu'elle serait restée avec lui, peut-être qu'elle aurait divorcé tout de suite. Enfin, leur parcours de vie a fait que, voilà, elle a craqué à ce moment-là, elle a eu la force de partir à ce moment-là. Mais tout en restant liée, en fait, c'est ça qui est assez fou. C'est qu'elle voulait son indépendance, mais qu'elle peut pas tout à fait vivre sans sa présence. C'est-à-dire que quand mon grand-père est décédé, pour ma grand-mère, c'était une perte énorme, parce que c'est quand même quelqu'un avec qui elle a passé toute sa vie. Et à la fois, à ce moment-là, elle avait besoin d'être dans son espace seule, tout en continuant à lui donner à manger, mais en se plaignant. Et donc, c'est vraiment la complexité de ce type de relation aussi, de gens qui ne se sont pas choisis.
Un peu comme une amitié franco-algérienne.
C'est ça, exactement. Bah, c'est ça, d'ailleurs, j'avais utilisé une phrase dans mon dossier quand je présentais le film, c'était « Ils se font face, parce qu'ils vivent l'un en face de l'autre, comme l'Algérie et la France se font face. »
C'est une belle manière de terminer.
Oui, c'est une belle manière de terminer.
Oui. T'as vu un film pour l'instant? Si tu veux nous parler d'un film.
Oui, j'ai vu les films de Marie-Claude Treillou. Donc j'ai vu Le Jour des Rois hier et j'ai vu Il était une fois à la télé aujourd'hui. Et franchement, je découvre son cinéma et je suis vraiment épatée. Le Jour des Rois, j'ai trouvé ça magnifique. Ça me fait penser à du Buñuel. C'est vraiment sublime. Et Il était une fois à la télé, c'est vraiment. Je trouve que c'est un documentaire. Très beau, la façon dont elle arrive à récolter la parole de gens dont les vies sont invisibilisées. Je me suis retrouvée beaucoup là-dedans. Et la façon dont elle sublime tout ça avec un langage cinématographique assez extraordinaire, où en fait, les cadres, la façon dont ils sont placés, dont ils s'expriment, le montage. Puis à la fin, elle joue un petit peu en ajoutant un peu de fiction. Enfin, je trouve ça vraiment épatant. Et c'est incroyable qu'on puisse, jusqu'à maintenant, grâce à ces festivals, que des gens de ma génération puissent redécouvrir ce cinéma qu'on nous enseigne pas vraiment, puis surtout moi j'ai pas fait d'école de cinéma, donc c'est avec les festivals et grâce aux festivals que je continue à découvrir la création de l'époque et même d'aujourd'hui, et j'adore ça.
Et un prochain film, t'as une idée de sujet?
Bah oui, mon prochain documentaire traite de l'histoire des femmes de ma famille en Palestine.
Ah ben voilà, justement, je vais te poser une question sur la Palestine après, derrière.
Ouais.
On se rejoint.
Qui en fait, du coup, j'ai aussi beaucoup d'images d'archives que mon père filmait là-bas dans les années 90. Donc, je me base sur des images d'archives et je traite la question de la transmission entre les femmes, de justement, donc ces histoires intimes qui sont très imprégnées d'une histoire collective tragique.
Voilà, un peu comme le film de ce soir, j'imagine, le film Gaza Mon Amour. Ouais. Ce soir, tu vas vouloir le voir, histoire d'amour tournée dans ce territoire.
Ouais. Je l'ai déjà vu. Parce
tu l'as déjà vu. Ah, tu m'en parles alors?
Ouais, ma mère joue dedans. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Non, mais c'est les frères Arab et Tarzan Nasser que j'adore, que je connais très bien. J'avais vu leur premier film Dégradé dans lequel ma mère jouait aussi. Ma mère est comédienne palestinienne. Et je trouve que c'est un film très beau, très simple dans sa façon d'être construit, mais avec. Des émotions que j'aime, c'est-à-dire qu'on passe du rire aux pleurs avec des personnages âgés qui se rencontrent et qui vivent un peu une histoire d'amour dans un non-dit total, et ça me parle énormément. Et je trouve que ça raconte Gaza sans le raconter frontalement, mais voilà, c'est des histoires de vie de gens en fait qu'on a tendance à déshumaniser constamment, mais qui en fait sont, c'est con à dire hein, de dire sont comme nous, mais en fait les gens oublient.
Mais on est tous comme tout le monde.
Bah,
c'est un
oui,
peu comme ton film, c'est une histoire d'amour, mais qui raconte la grande histoire. En fait, derrière.
Les gens oublient et parlent de ces gens de manière massive en disant voilà, il y a eu 1000 morts et 150 enfants morts, et en fait c'est des vies, et puis moi en plus c'est des vies de gens de ma famille, donc c'est, je trouve ça très très important de montrer ces films là
mais merci beaucoup en tous les
merci
cas.
Et c'est le moment de parler de la soirée à partir de 21h30 ce soir au Cinéma de Verdure. Vous pourrez donc voir en plein air tout d'abord un court-métrage d'animation de Marine Naclotte, Folie douce, folie dure. C'est une balade dans le quotidien de plusieurs institutions psychiatriques, du réveil au coucher. Le film va à la rencontre de personnes hors normes qui nous laissent entrer dans leur intimité. La richesse, l'humour et la sensibilité de ces personnes rendent alors cette balade inoubliable, et ce en toute simplicité et grâce à la force du dessin. Folie douce, folie dure de Marine Laclotte ouvrira donc la séance de ce soir au cinéma de Verdure à 21h30. Ensuite, direction le Maroc avec Ziyara. C'est la visite des saints au Maroc. C'est une pratique populaire que juifs et musulmans ont toujours eu en partage. Le film Ziyara est donc un road movie au pays natal de la réalisatrice Simone Bitton. Un pèlerinage cinématographique où la réalisatrice va à la rencontre des gardiens musulmans de sa mémoire juive.
Smiya Diali Yusuf Ahmadi. Second fils de Douna.
Des Amri.
Andiana Jaïd Bleu, 1935. Il fait Zaïd. Voilà, nous sommes Zaïd Goudam, nous sommes Zaïd Goudam, nous sommes Zaïd l'état civil, nous sommes Zaïd Goudam, 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 واه لا تكون عندي نكون
شتي السبويلا هنا
قريت هنا في المدرسه انا تاع كانوا نصار علي واه كان واحد ديريكتور واحد هذا كيقولوا لي مشي بوا من الاخرج واه مشي بويي واه كان هنا خير كان قريب
وكانوا يهود معكم
كانوا يهود يقراو في المدرسه كل شيء كان يقراو هذا في الطابلة وحنا كاع واحد حدا واحد كنا قاعدين طابلة طابلة واحدة
كنتوا تلعبوا؟
نلعبوا نخرجوا كيقولوا لها لا ريكرياسيون
مخلطين
يلعبوا العرب واليهود والنصارى وكل شيء كاع كانوا هنا
كان واحد منهم كان فريمون تون امي
كاين مارسيانو David, moi c'est nous amis.
Pensa.
Avec la France. Avec la France. Oui. Ou qu'il y a une Isaac. Ou qu'il y a une Ben Hammou. Joseph. Oui. Avec la France. Oui. Quoi qu'un, ça a dit, nous avons 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 dit,
c'est un extrait de Ziyara de Simone Bitton, un documentaire qui nous amènera au Maroc pour découvrir cette visite des saints, la Ziyara, cette pratique populaire que juifs et musulmans ont toujours eu en partage. Film donc, je le rappelle, qui sera projeté tout à l'heure à 21h30. Et la soirée se poursuit au cinéma de Verdure avec un film qui semble détonner, un grand moment de cinéma très contemporain, à voir à l'image avec la présence des masques, tout ça, ça a été tourné donc tout récemment. Un moment à vivre en plein air, à Jindou, sur grand écran. Ce moment, c'est Bad Luck, Banging or Lonely Porn. C'est un film de Radu Djun. C'est un film qui nous emmène à la rencontre de Amy, enseignante, qui voit sa carrière et sa réputation menacées après la diffusion sur internet d'une sextape tournée avec son mari. Elle est alors contrainte de rencontrer le comité de parents d'élèves demandant son licenciement.
She's Amy, an Amy Nant, romantic teacher from Little Paris. In a single moment, her whole life is turned upside down. Will she be able to face the angry mob of parents, teachers, drivers, officers, aviators, priests, corporate people, silver foxes, and more. The critics have spoken. 3 thumbs up. Better than the new James Bond. Tender and subtle. 2021 is the year for this new masterpiece by Radu Djun. Bad luck banging, great filmmaking.
Da, e adevărat ce zice acolo? Că sunteți actriță porno?
Bad Luck, Banging or Lonely Porn de Radidjin, ça sera à voir ce soir en deuxième partie de soirée au cinéma de Verdure, ici à Jindou. Et enfin, parlons de la science itinérante. Direction pour se faire Gourdon, pour y voir ce soir un film qui rentre dans le cadre de cette carte blanche donnée à Marie-Claude Triou, un film qui s'intitule « Beau temps mais orageux en fin de journée » de Gérard Frotte-Coutaz.
Ils ont annoncé une journée très chaude sur toute la France avec de gros nuages en fin d'après-midi.
Si j'achetais des fleurs, elle aime les fleurs, ta mère ? Donne-moi de l'argent. C'est tout ?
C'est tout ce qui me reste.
Je t'ai donné 500 francs hier.
Oui, mais hier, c'était hier. Depuis le restaurant, l'essence. Mais qu'est-ce que je fais, moi ? Les cigarettes aussi, tiens.
Regarde, elles sont belles. Floris m'a fait un prix. Comment tu les trouves?
Très belles.
Tu viens?
Embrasse-moi.
Plus vite nous leur parlerons, plus vite nous partirons.
Beau temps mais orageux en fin de journée de Gérard Frotte-Coutaz sera projeté ce soir en séance itinérante à Gourdon à partir de 21h30. Ce film, c'est l'histoire de Jacques et Jacqueline qui sont mariés depuis 40 ans maintenant. Leur vie commune balance entre tendresse et agacement. Parfois, Jacqueline perd un peu la tête et elle se sent partir ailleurs. Et aujourd'hui, l'atmosphère est à l'orage. Bernard, le fils, a prévenu qu'il venait déjeuner. La nouvelle panique d'autant plus Jacqueline que son fils a annoncé qu'il serait accompagné d'une jeune fille, sa petite amie. Beau temps, mais orageux en fin de journée, projeté ce soir à Gourdon, en plein air. Du 21 au 28 août, c'est les 37e rencontres cinéma de Jindou.
Joli village de Jindou. Et alors avec votre accent, ça fait Jindou. Je me disais, mon Dieu, ils ont des gens qui sont doux, c'est bien ça.
En salle ou sous les étoiles, d'archives en avant-première, de courts en long-métrage, on vagabonde d'idées en réalité, tout en faisant le tour du monde en images avec des films présentés par ceux qui les font et ainsi rencontrer ces raconteurs d'histoires lors des tchatches quotidiennes.
C'est des films qui peuvent se lire à plusieurs niveaux.
Quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, une image est une idée. Hein. C'est plusieurs idées même, c'est une série de signes, donc ça parle du monde. En fait, c'est faire du cinéma, c'est participer travail intellectuel collectif de l'humanité, je veux dire, bien entendu. Donc c'est vrai que le cinéma est une des manières.
Durant le festival, Antenne Doc vous livre le programme en détail le matin à 9h et à 19h, retrouvez les réalisateurs, publics et autres personnes présentes sur les rencontres cinéma.
Je dis toujours que toute sa vie, on devrait rester nomade de l'interrogation plutôt que sédentaire de la certitude.
Je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire même à un niveau individuel, tous les jours, se reposer la question tous les matins quand on se réveille, de se demander qu'est-ce que c'est que notre action sur le réel dans lequel on est, comment on se positionne, qu'est-ce qu'on fait.
Sur place, de quoi se restaurer, lire avec la librairie de Saran, des apéros-concerts et plein d'autres choses encore à découvrir durant les 37e rencontres cinéma de Jindou du 21 au 28 août. Pour retrouver toutes les infos sur les rencontres cinéma de Jindou, direction la toile internet à l'adresse jindou.org.